I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 87 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, double épisode, on va parler de One Fight Night 9, Nongo face à Haggerty et UFC Vegas 71, Blaydes versus Pavlovich. Alors je vais commencer directement avec One Fight Night 9, hein. On va commencer dans l'ordre chronologique, comme ça ceux qui sont pas forcément intéressés par le combat peuvent passer directement au UFC, mais rentrons directement dans le vif du sujet. Un combat très important m'intéressait énormément sur cette carte de One Fight Night numéro 9. C'était bien évidemment Nongo, le champion des Bantams en Muay Thai au One Championship face à Jonathan Haggerty, le Britannique qui, il n'y a pas si longtemps que ça, est monté des flyweight vers les bantamweight chez One Championship. Donc pour rappel, c'est un peu différent du UFC, donc il faut compter 10 livres de plus. En gros, le UFC est une catégorie derrière à chaque fois chez One. Donc en gros, chez One, chez les flyweight, vous êtes chez les bantamweight et chez les bantamweight vers les featherweight, etc. etc. Haggerty, qui pendant un moment se battait chez les flyweight, hein, il nous avait notamment régalé avec une guerre de fous furieux face à Ron Teng en 2019. Il avait perdu le deuxième combat en 2020 sur un TKO. Et puis il avait enchaîné les victoires derrière, hein, 4 victoires de suite, dont 3 chez One Championship. Et puis une montée qui posait question pour Jonathan Haggerty, puisque pas forcément très gros et monté chez les bantamweight avec une catégorie de fous furieux, notamment au One Championship, avec beaucoup de compétitions dans cette catégorie. Et notamment aussi quand même une loupée de poids, hein, finalement en 2022 aussi, il me semble que c'était son dernier combat, ou un de ses derniers combats en Muay Thai, où il était arrivé 3 livres de plus alors qu'il était monté en catégorie. Hein, il avait pesé à 148, mais cette fois-ci, les deux combattants, et Haggerty et Nongo, ont fait le poids. Donc on avait droit à un main event et on donnait pas forcément super cher de la peau de Jonathan Haggerty, qui certes est capable de rivaliser face aux meilleurs, comme je vous l'ai dit, on l'a vu face à Ron Teng, mais Nongo c'est quand même une légende, hein, et puis au niveau du Muay Thai, dans les stades, mais aussi chez One, il a gagné beaucoup, quoi. Il a gagné contre Fabio Pinca, il a gagné face à Sam Page Fairtex, il a gagné face à Rotlet Piquet, il a gagné face à Felipe Lobo, Liam Harrison, Ramadzanov, qui est un très très bon Nakmuay chez les Russes. Donc quand même, une légende tout simplement, on a pu à le présenter, mais mine de rien, malgré son âge assez avancé et le fait qu'il est bourlingué dans les 2000, dans les Olympini, etc., ça reste quand même la grosse légende et un gars qui est très compétitif encore au jour d'aujourd'hui. Donc ce combat, évidemment, était super intéressant, du moins sur le papier, mais aussi dans la réalité. Comme je vous le dis, on ne donnait pas forcément cher de la peau de Haggerty, mais Haggerty, il se bat tout le temps avec tout son cœur, avec toutes ses tripes. Premier round, Haggerty enclenche les premiers échanges dans les 30 premières secondes. Le switch kick, le left kick du gauche marche très bien en middle. Ça snap vraiment très fort. Premier changement de stance pour Haggerty pour mieux envoyer son 1-2 qui marche vraiment pas mal. Nongo commence un peu à pousser. Alors je vous rappelle, il y a 5 rounds de 3 minutes. Ça laisse quand même le temps, mais Haggerty veut quand même charger. Nongo est vraiment pas le genre de gars à se laisser faire dans un combat, donc il est obligé de répondre, hein. Clairement il est obligé de répondre, mais Haggerty a du très bon contre-répondant. Nongo qui envoie un coup de poing et qui enchaîne directement avec une jambe arrière. Très beau catch de Haggerty qui passe un sweep direct derrière. Le premier statement du combat est fait, hein, ça donne beaucoup de points en Muay Thai. Si vous catchez, que vous sweepez votre adversaire, c'est quelque chose qui horrible originellement dans le Muay Thai est un très beau mouvement et qui est bien scoré par les arbitres aussi. Les échanges au corps à corps de Haggerty sont vraiment forts en boxe, il y a beaucoup de volume, on sent énormément d'envie de la part du Britannique. Mais directement quand Nongo commence à pousser dans les cordes, je vous rappelle que les combats étaient dans un ring, quand Nongo pousse contre les cordes, ça fait directement peur. Les bombes, surtout sur des one-shot, pleuvent, mais peuvent faire très 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 mal. Mais évidemment, c'est sûr que quand on pousse ainsi, et Nongo, c'est un peu à la taille, des fois il y a le menton qui est un petit peu en avant, mais ils font très très confiance à leur menton, et ils ont raison parce qu'ils en ont un, mais ça peut être aussi très dangereux, surtout avec les petits gants, hein. Ça c'est généralement, ça pardonne pas, et en ouvrant ce menton, et puis en poussant, Haggerty passe le premier counter, la première droite directe, pleine poire, qui envoie Nongo directement au sol, premier knockdown du premier round. Je vous rappelle la règle chez One, 3 knockdowns dans un round égale 1 KO et c'est terminé. Alors attention à Nongo. Le Thai se relève mais en titubant et évidemment Haggerty est obligé de pousser direct, hein. Il sent qu'il a le momentum, il sent qu'il doit continuer, il repousse derrière contre les cordes et reconnecte une fois de plus. Nongo doit poser un genou contre les cordes, c'est très mal parti, on en est à 2 knockdowns dans ce premier round. On sent que ce premier coup a fait très très mal à Nongo. On recommence, l'arbitre est obligé de repousser Haggerty avant de relancer le combat, tellement Haggerty a envie de finir ce combat, on sent qu'il a le momentum. Et puis derrière évidemment Haggerty continue de pousser et dans un bel échange au clinch contre les cordes, je pense que Nongo essaie de survivre, je crois même qu'il a zioté à un moment donné l'horloge pour voir combien de temps il resterait, parce que c'est clair qu'il était en eau trouble, très 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 trouble et très profonde. Du coup, Haggerty commence à vraiment forcer dans le clinch. On part un petit peu en dirty boxing, coude, uppercut, et il arrive à passer un petit peu de distance pour connecter cette droite qui, encore une fois, envoie Nongo au sol, mais qui le détruit complètement, vraiment une poupée de chiffon qui tombe au sol. Nongo est KO, de toute façon, c'était le troisième knockdown dans le premier round, et c'est terminé. Haggerty remporte la ceinture des Bantamweight en Muay Thai chez One Championship à 26 ans. Donc, énorme bravo, hein. Clairement, genre un gros wow, un gros upset aussi, puisque, comme je l'ai dit, Nongo était partant favori, clairement. Mais Haggerty qui joue le rôle de l'underdog, mais un underdog qui a les capacités de renverser les odds et puis de prendre la ceinture, et il l'a fait. Et bravo à lui encore une fois parce que il est jeune, il a commencé tôt, mais il a commencé tôt dans la haute compétition aussi, hein, à se retrouver vraiment sous le feu des projecteurs à un âge précoce. Face à des bourlingueurs comme Nongo justement encore une fois aujourd'hui, et puis là c'est vraiment clairement la plus grosse victoire de sa carrière, hein, puisqu'il prend la ceinture, je pense qu'il prend un bonus, il prend tout. Bravo à Jonathan Haggerty, bravo à sa team, une ceinture qui repasse du côté européen contre les Thaïs. Alors je sais, on n'est pas au stade, on n'est pas au Lumpini, etc. Mais on est quand même dans le roster Muay Thai le plus féroce de la Terre en ce moment même. Bravo Jonathan Haggerty. Ça fait plaisir quand même parce que on a droit à de la belle compétition. Tout simplement chez One dans la plupart des catégories en Muay Thai. Et puis du 109, une belle relève. On le savait déjà, ça fait longtemps que Haggerty c'est un vrai, et puis là aujourd'hui c'est clairement le jour de la confirmation, bravo aux Britanniques. Changement d'organisation, changement de carte, on passe au UFC Vegas 71, une nouvelle fois à l'Apex, beaucoup de combats à l'Apex cette année, beaucoup trop de combats à l'Apex cette année, sachant que beaucoup de pays, même de continents, attendraient une carte du UFC. Eh bien écoutez, on se mangera plus d'Apex, c'est ainsi que va la vie, et c'est ainsi que s'enchaînent les cartes. Et le premier combat intéressant de la carte, c'était William Gomis face à Francis Marshall. Francis Marshall qui vient des Contender Series et qui a gagné son premier combat face à Marcelo Rojo. Combat intéressant dans le sens où on a vu encore plus de discipline du côté de William Gomis. Alors, il y a quand même beaucoup de bons points à retenir de la part du Français. Premier round, l'allonge de Gomis, on voit au niveau des jambes qu'elle va clairement poser un problème pour Francis Marshall. Il doit faire attention à ne pas se manger trop de middle kick, parce que comme je vous le dis, l'avantage de l'allonge côté William Gomis est vraiment énorme. Pas mal de prudence dans l'approche de Francis Marshall, qui, on le sait, a un côté plus lutteur, donc évidemment, il faut quand même bien le timer. Et de ce point de vue-là, ben Francis Marshall est plutôt intelligent dans le sens où il ne rush pas la lutte, il ne rush pas les takedowns, pas de tentative de takedown vraiment au premier round. Mais du coup, ça laisse aussi un peu de temps et de bonne marge de gestion pour William Gomis. Ben Francis essaie de timer des kicks avec une droite directe, mais ça ne connecte pas vraiment. Marshall cherche à tourner autour de la droite de Gomis pour aller chercher de l'angle, mais aussi pour probablement éviter le coup du français. Il tourne, mais ça ne donne pas grand-chose derrière. Il finalement est réussi à timer de la lutte pour essayer d'aller chercher William Gomis, mais lui, évidemment, le savait. On finit un peu contre la grille. Bon, premier round, on va dire à l'avantage du français, puisqu'il gère mieux ce round, le combat, la distance. Certes, au niveau du volume des coups, c'est pas ce qu'il y a de plus conséquent pour le français, mais il ne se fait absolument pas toucher par Francis Marshall et il a même pas eu à lutter vraiment. Hein. Donc, il n'y a pas eu énormément de défense de lutte à faire pour le français. Premier round, on va dire tranquille pour William Gomis. Dans le deuxième round, le corner de Francis Marshall lui demande de placer un crochet du gauche quand, quand William Gomis tourne. Il y a clairement un besoin d'adaptation hein, de Francis Marshall parce que pour l'instant, il connecte absolument pas. Alors que justement, dans le round 2, William Gomis, lui, commence à envoyer du jab doucement. C'est sûr qu'il a eu tout le temps du monde dans le premier round pour bien jauger la distance. Alors, il commence à envoyer du jab. Ça marche pas mal. Où Francis Marshall commence à essayer à courir vers le français. Clairement, il cherche à aller le chercher, puis il commence à y avoir de la frustration côté américain. Gomis time bien le crochet de Francis, comme son corner lui avait demandé de faire, mais ça ne l'aide absolument jamais. Bon, on essaye de passer côté lutte. Bon, Marshall réussit à prendre le dos, mais Gomis réussit à casser cette lutte. Alors, encore une fois, gros problème avec la distance de Francis Marshall qui connecte rien, alors que lui, Gomis, commence à passer quelques kicks. Il reste bien mobile, il gère bien, pas tant actif que ça dans l'offense, mais quand même, a réussi à placer quelques coups, à mettre des points, et les middle kicks commencent à bien passer, ce qui pose beaucoup de problèmes à Francis Marshall, qui, encore une fois, ne réussit pas à résoudre l'équation William Gomis et qui en plus commence à se prendre plus de coups. Même en le poussant contre la cage, Marshall n'y arrive vraiment pas. C'est clair que la lutte était téléphonée, la tentative de takedown était téléphonée dans le deuxième round. Gomis la mange. Il connecte bien, même sur le gong, avec une dernière petite gauche qui commence à arriver pleine poire. Ça monte doucement en intensité pour le français. Bonne gestion, on est sur du 20-18. Dans le troisième round, le corner de Francis Marshall push pour un takedown, mais pas grand-chose dans les consignes techniques. J'ai entendu « Don't rush it, I need it ». Mais bon, ils lui ont pas donné de setup vraiment pour rentrer ce takedown. J'ai trouvé ça un peu faible. Marshall chasse encore les mouches hein, avec ses crochets du gauche dans le troisième round. Ça marche clairement pas. Gomis travaille bien les jambes de Marshall avec des beaux petits low kicks. Et puis son allonge sur les kicks lui sert énormément. Marshall finalement réussit à passer ce takedown, donc certes ça a été beaucoup de travail et son corner lui a demandé de le faire. Si ça se trouve, il n'y avait pas grand chose à lui demander hein, sur les consignes de takedown, puisque c'est un très bon lutteur. Et puis apparemment, il suffit de lui demander pour qu'il le passe, ce qui s'est passé. Francis Marshall essaye de prendre le dos, c'est compliqué parce que Gomis réussit à se mettre sur un genou, à se relever. Il se relève pas complètement debout et Francis Marshall, lui, met énormément de poids avec ses hanches puisqu'il a le body lock sur Gomis contre la grille. Et Gomis finit par tomber sur ses deux genoux, se recroqueville en tortue, mais là, ça devient dangereux. Marshall commence à prendre le dos, il essaye de l'aplatir et réussit à l'aplatir. rire. Il réussit à passer un rire Naked Choke, mais on connaît la résilience de William Gomis. On l'a vu à UFC Paris où il a été pris dans un sale triangle, il a réussi à survivre. Et là, il nous refait le coup. Francis Marshall n'arrive pas à passer ce rear naked choke jusqu'au bout. Apparemment, les commentateurs disaient qu'ils entendaient William Gomis gargler. Donc vraiment des bruits d'étouffement, hein, clairement. Moi, je ne le voyais pas. On n'avait pas forcément l'angle qu'il fallait à la caméra pour voir si cet avant-bras était passé en dessous du menton. Mais Gomis réussit à sortir de là. Une fois que Gomis réussit à sortir de là, Francis Marshall a été sur le dessus. Gomis a réussi à se retourner, à passer un peu sur le dos, limite dans une demi-garde quasiment. Mais Marshall réussit à passer un arm triangle. Et là, on est en situation de danger. Gomis a bien défendu, a bien mis son téléphone au niveau du bras, au niveau de la main, pour pouvoir défendre cet arm triangle et pas se faire choquer. Au final, il ne craque pas, ça a été une galère pas possible pour Marshall, ce combat au complet, mais Gomis a été en danger sur la fin, mais Gomis a géré dans sa défense, dans la défense de lutte aussi, hein. Il s'est pas laissé vraiment tomber aussi facilement que ça, il a vraiment beaucoup défendu et Marshall a dû cranker, à mettre énormément de force avec, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de poids sur les hanches pour pouvoir réussir à mettre Gomis au sol, mais Gomis a réussi à ne pas se faire manger, à ne pas se faire étrangler sur ces dernières minutes, donc bravo à lui pour ça. Victoire de William Gomis par split decision. Hein, moi, je pense que j'aurais pensé que ça aurait été unanime avec deux rounds à un, mais un arbitre a donné deux rounds à Marshall. Bon, au moins victoire pour Gomis. J'aimerais bien voir un petit peu plus d'activité côté William Gomis, mais malgré tout, il faut dire que c'était un gros test. Hein, il était underdog, hein, face à Francis Marshall, et même si Francis Marshall ne lui a pas donné l'enfer, hein, au niveau de la lutte, sauf on va dire dans les deux dernières minutes où c'était quand même chaud pour le français, William Gomis a géré, mais pas sûr que le français puisse rester dans des situations aussi difficiles qu'il l'a été comme à UFC Paris avec ce triangle, ou là à l'Apex à Vegas face à Francis Marshall avec cette double attaque en fin de troisième de l'américain. Ça peut être dangereux et on est chez les featherweight. Et chez les featherweight, dans les classés, il y a des assassins et il y a des moments où tu leur donneras ce genre d'opportunité où cette opportunité sera mise à mal et ça passera pas. Il va falloir faire attention là-dessus pour William Gomis, mais je pense que clairement il a une très bonne base et il peut aller titiller le classement, mais les plus gros tests risquent d'être différents. Bravo à William Gomis, en tout cas, franchement, complet, les déplacements vraiment bien, l'utilisation de la distance vraiment bien, la patience vraiment bien, la discipline bonne, et puis évidemment sortir du bourbier, clairement, il sait le faire. Bravo à William Gomis. Et le prochain combat qui m'intéressait, c'était Junior Taffa face à Mohamed Ousmane. Alors pourquoi ce combat m'intéressait ? Bien parce que c'était les débuts au UFC de Junior Taffa, le néo-zélandais de Juggernaut. Alors belle petite hype, parce que il a bourlingué au final. Junior Taffa, c'est un ancien kickboxer, il a fait quelques combats chez Glory, il s'est combattu en boxe, en kickboxing, en Muay Thai, puis aussi évidemment en MMA, dans des organisations assez connues et reconnues telles que Brave ou Rising au Japon. Belle petite cote quand même pour Junior Taffa, qui est le profil clairement du gros banger avec un knockout power. Et face à lui, quelqu'un qui est plus en mode lutte, Mohamed Ousmane. Alors est-ce que c'était un combat où le clash des styles a annihilé le combat, l'a éteint ? Eh bien oui, malheureusement, Ousmane a beaucoup poussé contre la grille, a beaucoup lutté, a réussi à passer quelques takedowns qui ont clairement éteint le combat. Première chose aussi que je vois, Ousmane est tanké comme pas possible. Alors ses épaules, ses bras, le haut de son corps, incroyable. Pour un heavyweight en plus, la cardio derrière, c'était pas ça. Hein. Par contre, beaucoup de pouces contre la grille et beaucoup de pouces et lutte contre la grille. Rien quasiment dans le premier round, j'ai envie de vous le dire clairement. Hein. Jusqu'à peu près 2 minutes. jusqu'à ce que Mohamed Ousmane a failli prendre un genou pleine face. Hein. C'est sûr que vous laissez un petit peu d'espace à Junior Tafa et ça peut être très dangereux derrière. Il a failli se faire éteindre avec ce genou en allant pousser sur un takedown. Hein. Il a dû changer de niveau du haut vers le bas. Et là, Junior a failli lui passer un genou pleine poire. Chaque tentative de takedown d'Ousmane peut être dangereuse pour lui-même. Tafa utilise le moindre espace, comme je vous dis, pour essayer de mettre le coup qui fait mal, parce que c'est clairement sa force à Junior Tafa. Dans la dernière minute, un coup contre la grille, ça part un petit peu en scrap. Ousmane se relève et ça swing et ça swing. Le dernier elbow de Junior Tafa aurait pu faire très très mal. Ousmane qui a dû reculer et bon, après il a dû aller lutter pour se sauver les miches. Deuxième round direct, Junior Tafa va swinger, on sent qu'il n'a pas trop le choix. On sent aussi que les deux sont déjà fatigués, hein. J'ai l'impression qu'ils sont déjà pas mal cuits. Ousmane mange quelques shots et doit repousser contre la grille. Et finalement, Ousmane a réussi à passer ce takedown, le Holy Grail. Pour lui, il en avait énormément besoin parce qu'il était en danger. Malgré tout, dans les peu d'instants que Junior Tafa pouvait attaquer. Le travail au-dessus est faible. Honnêtement, je vous le dis, on se fait chier. Tafa essaie de le garder proche pour pas manger de ground and pound. Et il reste, bon, voilà, ça, on reste au-dessus, en dessous. Tout du long, Mohamed Ousmane fait le taf sans faire le taf au final. Et troisième round, on voit Mohamed Ousmane tituber direct en entrée de round et il ne s'est pas pris de coup, hein. Juste il titube parce qu'il n'en peut plus de sa vie et il est obligé de repousser Junior Tafa contre la grille. Il passe un autre takedown mais là vite, assez en début de round, il reste 4 minutes pour Tafa, ça va être très compliqué pour le viewer comme pour les combattants. On aura droit à quelques secondes de debout en fin de round et Tafa charge mais c'est bien trop tard, hein. De toute façon c'était compliqué pour lui d'essayer de se relever en dessous de Mohamed Ousmane. Ça doit être vraiment, surtout avec la cardio qui lui restait, ça devait être super compliqué, voire impossible. Bon, la défense en plus de Mohamed Ousmane contre les uppercuts, c'est de pencher la tête en avant et de mettre les bras en avant, c'est dégueulasse, c'est moche. Et il aurait pu se faire knockout, hein, clairement, hein, il y avait la place. Mais malgré tout, hein, il ne se fait pas knockout, il s'est fait connecter une ou deux fois, mais pas assez. Et puis il prend le combat, tout simplement, c'était pas beau à voir. Je ne le regarderai plus jamais et je n'attends pas avec impatience les prochains combats de Mohamed Ousmane. Je pense toujours qu'on peut voir Junior Tafa dans des espèces de combats de fin de classement ou alors de un peu de no-name et toujours avec des KO flashy, ça peut toujours arriver. Il y en aura d'autres, je pense, mais ce combat-là est à proscrire. Victoire de Mohamed Ousmane. Autre combat fun sur cette carte, chez les lightweights, c'était Jared Gordon face à Bobby Green. Alors, certes, c'est pas les mieux classés et ça ne sera pas les mieux classés chez les lightweights, bien que Bobby Green, à un moment donné, était plus en haut de classement. Hein, et depuis la défaite face à Islam, bon, il est clairement là en mode gatekeeper, en mode journeyman au sein de la division lightweight. Jared Gordon, lui, s'est fait fourrer dans une décision face à Paddy. C'était important, je pense, pour Jared Gordon surtout de gagner. Bobby Green, bah, peut-être aussi, mais lui, on sait déjà, on connaît son statut. On sait qu'il aura d'autres combats et on sait où il est, tout simplement, et puis on n'a pas forcément de problème à le regarder. L'UFC n'a pas le problème à le mettre sur une carte. Voilà, il est en fin de carrière pépère tranquille, il cruise. Malgré tout, combat qui pouvait s'annoncer sympa sur le papier. Alors Bobby Green, comme d'habitude, en mode gangsta, les mains en bas en ouverture de round, grosse confiance en lui. Il part sur des... C'est bizarre un peu sa façon de se battre parce qu'il avance sur Jared Gordon avec les mains en bas. Et il travaille en counter. Donc, normalement, quand on avance sur quelqu'un en striking, c'est plus pour aller striker en premier. Mais bon, chacun son style. Green réussit à passer justement quelques counters. Il gère mieux la distance de son adversaire et puis je pense qu'il l'utilise bien pour placer quelques low kicks. Mais attention, ça commence à swinger entre les deux. Hein. Quand on est dans la poche, c'est clair que ça déroule, ça swing, ça envoie du crochet. Green n'a pas l'air d'être très intéressé à jabber. Lui, il veut plus brawler, j'ai l'impression. Mais quand Gordon avance un peu, ça peut connecter aussi doucement. Quand Bobby Green aussi attaque, ça peut être dangereux sur les assauts. Hein. Quand on part sur des brawls dans la poche, un coup qui peut connecter, surtout chez les lightweights, ça peut faire très mal. Et sur un échange où Bobby Green, je pense, essaye d'avancer avec un petit coude, la main verticale vers Jared Gordon, mais au final, les deux sont un peu bas et il y a un clash de tête. Et clairement, c'est Bobby Green qui avance le plus fort, un peu vraiment en avançant sur Jared Gordon, qui lui était plus... sur ses appuis, justement, c'est lui qui a reçu le plus lourd de ce headbutt et s'est retrouvé sur le dos. Et Bobby Green a directement enchaîné avec du ground and pound. Et Jared Gordon s'est retrouvé quasiment KO, quoi. Vraiment, il était plus là, les mains écartées, il pouvait plus se défendre. L'arbitre arrête. Et c'est vu que c'est clairement un headbutt, tout le monde l'a vu, qui a envoyé Jared Gordon au sol. Et on part sur un no conteste. Alors ça aurait pu être un KO ou un TKO, pardon, au premier round, comme ça l'a été pour Chris Curtis la semaine dernière, il me semble. Au final, on part sur un no contest et c'est assez juste, parce que ça aurait été vraiment pas cool pour Jared Gordon, qui en plus, comme je vous l'ai dit, s'est fait voler la victoire face, il me semble, selon mon humble opinion, face à Paddy Pimblett. Ça aurait été vraiment dur pour lui qui perd à cause d'un headbutt, quoi. Du coup, on est sur un no contest et un combat qui n'aura servi à rien. On peut passer à la suite. Et comme main event, pas mal du tout entre deux middleweight, Brad Tavares. Alors Brad Tavares, lui aussi un bourlingueur de UFC, clairement, face à Bruno Silva, lui aussi qui a quelques combats au UFC. Puis clairement de journeyman dans la catégorie qui n'est pas du tout la plus compétitive au UFC. J'ai nommé les middleweight, mais pourquoi pas un beau petit scrap entre les deux, pourquoi pas. Et ce beau petit scrap, on l'a eu parce qu'on a eu un combat qui s'est terminé au premier round. Bruno Silva pousse fort contre la grille, mais les left hooks de Tavares posent pas mal de problèmes. Entre les deux, on aura beaucoup d'attaques en ligne, beaucoup d'échanges vifs, des 1-2, 1-2-3 max, avec avancée reculée, mais aussi des petites batailles de brawl dans la poche, que ce soit contre la grille ou même au milieu de l'octogone. Franchement, c'était pas mal. Bonne intensité, combat sympa à regarder, pas forcément le plus haut niveau, clairement pas dans le striking, mais franchement ça avance pas mal l'un sur l'autre avec des 1-2, des longs jabs piquants, un peu en mode escrime, quelques kicks. Brad Tavares a des middle kicks assez lourds, je trouve que ça pousse vraiment pas mal, et encore une fois ça attaque beaucoup en ligne de chaque côté, donc il y a quand même de l'action. Par contre, Tavares est le premier à être salement touché, mais réussit à retoucher derrière. C'est vraiment dans un échange contre la grille où on a l'un des deux qui finira par gagner cette bataille des striking furtifs, j'ai envie de dire. Silva réussit à prendre Tavares en clinch, et quand il le prend en clinch, il arrive à lui baisser un petit peu la tête, à passer un gros genou. Et celui-là, il fera vraiment très mal. Il enchaînera avec une droite pleine mâchoire, mais vraiment genre pleine, très bien placée, pleine mâchoire, avec une belle force, belle droite bien directe, bonne rotation des épaules, des hanches, le bordel complet, quoi. Et forcément, ça envoie Tavares au sol. Tavares au sol qui directement essaye de se recroqueviller en poussant avec ses jambes vers les hanches de son adversaire. Ça, c'est le bon réflexe à avoir. Et il commence un petit peu à pivoter. On voit qu'il commence à prendre, à chercher un angle pour avoir un plan d'action derrière pour et se défendre et relancer le combat. Mais Silva a essayé directement derrière d'enchaîner avec du ground and pound, je pense, pour évidemment finir son adversaire. Mais l'arbitre ne lui a même pas laissé le temps et a arrêté direct le combat. Alors oui, j'ai l'impression que ça s'est arrêté un petit peu trop tôt, mais c'est clair que la droite de Silva qui est arrivée pleine poire et Tavares qui est tombé directement au sol a fait vraiment peur. Hein. C'est, du point de vue de l'arbitre, je pense que ça peut être aussi assez épeurant, mais clairement, on voit que ce soit au ralenti ou dans le combat que je pense que Tavares, lui, était prêt à continuer, clairement. Et il avait aussi le langage corporel qui montrait qu'il n'était pas complètement hors de lui et qu'il était toujours dans le combat. Donc c'est un petit peu chiant parce qu'on avait quand même un beau scrap au premier round et puis on aurait pu avoir une guerre entre les deux avec du back and force et des retours, etc. Ça aurait pu être un peu plus cool. Donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé que le combat peut-être se continue un petit peu plus. Malgré tout, scrap fun à regarder. Et puis bon, on est chez les middleweight, c'est pas le niveau le plus fou, mais quand même un petit combat sympa. Et il faut le dire, quand même, belle victoire avec cette droite dévastatrice de Bruno Silva. Cool. Petit fight qui paye, pas de mine, mais bah, on dit pas non à ce genre de fight. Un round et un KO. Merci à Bruno Silva et Brad Tavares pour cette petite guerre, ma foi, sympathique au premier round. Et le main event, oh combien important chez les heavyweights, puisque ben, le gagnant vraisemblablement ira chercher le prochain title shot, ou alors la prochaine tentative pardon, d'aller chercher ben, cette ceinture, hein, puisqu'on annoncerait hein, Jon Jones face à Miocic qui ne m'emballe absolument pas du tout, même si j'estime que Miocic mérite d'avoir ce dernier combat. Maintenant, c'est trop tard, je pense. Hein. On a fait des épisodes il y a plusieurs années où on parlait de ce Miocic face à Jones et puis on le disait, ouais, ben il faut que ce soit cette année, sinon c'est trop tard. Et ben l'année du trop tard, c'est l'année 2023, je pense. Après, j'espère que le combat me donnerait tort, mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos heavyweights. Le russe Pavlovich face à l'américain Curtis Blaydes. Quel combat, parce que Pavlovich est en feu, tout simplement. Son niveau a vraiment, vraiment augmenté. Et Curtis Blaydes, lui, a toujours été présent hein, chez les heavyweight. Il a toujours répondu vraiment d'une manière forte. Les moments où il devait répondre, il a toujours été un contender sérieux pour être un champion. Tandis que Pavlovich, lui, bah, ça a été une grosse montée en puissance sur les dernières années. Alors certes, Pavlovich a peut-être pas gagné contre les meilleurs, mais bon, il a quand même éteint Lewis, il a éteint Tuivasa et il a éteint Curtis Blaydes. Et le tout au premier round à chaque fois. Hein. Sa dernière défaite remonte à 2018 face à Alistair Overeem et encore une fois au premier round. Tandis que Curtis Blaydes, lui, eh ben, il a perdu contre bah, des cogneurs. Il a perdu contre Ngannou et il a perdu contre Lewis. Sinon, il a toujours gagné. Hein. Junior Dos Santos, Volkov, Rosenstreich, Chris Do Chaos, Thomas Pinal. Bon, Thomas Pinal, est-ce une victoire, oui ou non? Bon, il a gagné contre Mark Hunt, il a gagné contre Overeem, il a gagné contre Oleinik. Voilà, c'est un sacré loupard, le Curtis Blaydes. Donc, ce combat-là était clairement ben, le title shot eliminator. Et ça a été dur, encore une fois, côté Blaydes, face à un gros puncher. Ça marche pas très bien pour Curtis Blaydes face aux gars qui peuvent vous éteindre, et Pavlovich fait partie ces gars-là. Malheureusement, Curtis Blaydes n'a pas vraiment eu, pour lui, la possibilité de lutter et d'imposer son ground and pound le plus vicieux de la catégorie. Premier round, stance habituel pour Curtis Blaydes, encore une fois, s'est écarté en mode vraiment, en mode lutteur, tandis que Pavlovich, lui, veut déjà faire parler ses mains. Dès que ça envoie du 1-2, là, côté Pavlovich, au stick, ça fait mal. Attention, quand ça rentre dans la poche, ça swing très fort, et puis les attaques en ligne, les 1-2 de Pavlovich sont très bons. Blaydes reste quand même assez discipliné dans sa garde, la coquille en haut de la tête, le casque. Mais attention, hein, parce que dans les premières minutes, ça envoie déjà fort. Ça envoie déjà fort. Blaydes doit rester calme. Hein, il envoie quelques low kicks un petit peu. Mais attention, Pavlovich a les mains très, très lourdes. Et puis, ça lui arrive d'envoyer Curtis Blaydes, valser, vaciller, limite tomber avec des points qui arrivent dans la garde, hein, je précise, de Curtis Blaydes. Mais c'est dire la puissance du russe et sa volonté d'y aller fort dans le premier round. Par contre, premier jab qui arrive pleine poire de Blaydes, direct, Blaydes, ça le fait tituber, gros danger. Je parle d'un jab, Hein, certes, on est chez les heavyweight, mais un jab. Bon, après, c'est avec les petits gants, donc un jab de heavyweight qui arrive plein de poire, je pense que ça te met pas bien. Et si Curtis Blades, ça le met pas bien, c'est que Pavlovich a un sacré knockout power. Hein. Attention, encore une fois, un jab, bordel. Ouais, le jab, c'est la vie hein, dans le striking. Ça peut être une attaque, comme ça peut être toute une technique, comme ça peut être toute une stratégie, mais l'importance du jab, les amis, on ne le dira jamais assez. Blade sent qu'il est en danger, du coup il shoot, mais je pense que c'est un shoot un peu désespéré. Pavlovich le mange sans problème, ça n'a pas forcément été follement timé. Je pense que Blade était déjà dans la difficulté. Hein. Même si vous prenez des droites dans la garde, ça reste quand même des heavyweight avec des petits gants et ça peut faire très mal. Pavlovich a énormément de power et comme je le dis, Blade a un petit peu trop confiance dans sa garde. Il aurait peut-être dû tourner un petit peu plus, casser la distance, prendre sa distance, reculer, avancer pour mieux shooter justement. Mais encore une fois, hein, là trop, c'est trop une droite dans la poche qui glisse sur le menton de Blades, l'envoie au sol, hein, c'était parti sur un scrap, les deux étaient dans la poche, ça a commencé avec une belle combinaison de Pavlovich, comme d'habitude, hein, beaucoup d'anglaises pour Pavlovich dans la poche, et au final, bah, y aura cette droite qui connectera sur le menton, qui glissera sur le menton, hein, c'est vraiment, c'était vraiment dans la poche, donc c'est vraiment limite droite crochet, il était un peu au-dessus, et il lui a passé cette magnifique droite qui, encore une fois, je vous le dis, glisse, hein, bon certes, ça l'a connecté, mais ça plus ça glisse et ça la voit directement au sol. Après, il finit au sol hein, avec le grand dead pound. Ce mec est une machine dans le premier round et termine Curtis Blades. Holy shit. Ce mec. Alors, première chose à dire, bravo déjà. Clairement, un assassin au niveau de la boxe chez les heavyweight. Bon, en MMA, bien sûr, je le rappelle. Mais quel danger. Qu'est-ce Sergei Pavlovitch ? Quel danger, parce que Curtis Blades, comme je vous le dis, le gars a toujours répondu présent dans les moments où il fallait répondre présent, et il s'est fait éteindre comme pas possible. La dernière victime, avant ça, c'était Bam Bam qui s'est fait éteindre, pareil, comme pas possible. C'est dur. Alors maintenant, on ne peut pas s'empêcher de parler du fait que c'est toujours dans le premier round. Qu'est-ce qui se passe sur plusieurs rounds pour Pavlovitch ? Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça n'est jamais arrivé au UFC, donc on ne peut pas vraiment comparer face au pédigré de la meilleure organisation mondiale, même si la catégorie heavyweight n'est pas forcément la plus fournie, même si malgré tout, ces 5 dernières années, ça a quand même pas mal bien évolué au UFC. Mais là, on ne sait pas quoi. C'est quand il s'est battu en Russie sur un 5 rounder en 2017 qu'on a pu le voir quoi. Sinon, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passerait sur plusieurs rounds. Et c'est clair et net que à partir d'aujourd'hui, il va devoir penser à l'éventualité d'aller chercher un combat sur plus de rounds, quoi. Parce que je pense que pour le prochain combat, il se bat pour un championship, quoi. Je vois pas trop l'intérêt de le remettre contre un autre, même s'il pourrait, hein. On sait qu'au UFC, tout va très vite et... Puis il y a beaucoup de politique et il y a aussi du calendrier, de l'agenda. Bref, il y a énormément de facteurs à prendre en compte dans le matchmaking du UFC, surtout dans les positions les plus hautes. Mais là, clairement, il faut qu'il s'entraîne pour plus. Qu'est-ce que ça donne, quoi ? Ça, c'est la grosse question et j'ai hâte de voir la réponse. Mais bon, on le sait que face au plus gros, déjà, il sait répondre, quoi. Curtis Blades, tu es Vaza, Lewis, enfin voilà. Je sais que c'est pas les plus grands noms du MMA en heavyweight de tous les temps, hein. Je le sais, j'en suis conscient. Mais Curtis Blades, c'était quand même une grosse étape pour lui, et puis il l'a franchi avec brio. Maintenant, la prochaine, clairement, hein, je me répète, mais la prochaine grosse étape, c'est comment est-ce que tu tiens sur plusieurs rounds face au meilleur. Le meilleur étant, pour l'instant, je pense... John Jones, on verra la suite, mais c'est vraiment cool d'avoir un gars qui éteint tout le monde comme ça dans le premier round chez les heavyweight. C'est cool d'avoir ce gars-là. Merci à Sergei Pavlovitch, dur pour Curtis Blades qui lui aura jamais son foutu title shot, c'est pas possible autrement. Dur pour lui. Et merci les heavyweight, et puis merci pour cette carte, et puis merci à vous pour cette écoute. Allez me suivre sur Twitter @guillotine 514. Allez me suivre aussi sur YouTube, la chaîne du Guillotine Podcast. Et puis voilà, Instagram si vous voulez, guillotine_podcast. Merci à toutes, merci à tous. On se reparle très bientôt. Ciao! It is what it is.